RCF.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, vous êtes avec les Neveux de René, Chemin de pensée, une émission consacrée à la découverte des textes classiques de la philosophie. Vous êtes avec Anne Bonneau, Nicolas Lemoine, Sylvain Contasso-Vivier et Nazim Fattès. Alors, nous allons passer sans attendre la parole à Nicolas Lemoine qui va nous faire un résumé de l'émission de la semaine précédente.
Alors, la semaine dernière, nous avions montré un aspect terrifiant de la philosophie qui, loin d'un discours général sur la beauté des choses, sur ce qu'il faudrait faire, etc., comment être heureux, était une discipline exigeante qui nécessitait de se donner un vocabulaire précis pour ne pas raconter n'importe quoi et qui parfois, enfin en tout cas, c'est le cas dans le Gorgias, dans certains passages de l'échange avec Paulos, où Socrate fournit une démonstration qui n'aurait rien à envier à une démonstration mathématique. Voilà.
Alors, néanmoins, cette démonstration, elle est difficile à digérer, à apprendre, à s'en souvenir, et il semblerait, Sylvain, que toi, tu disais qu'elle n'était pas aussi rigoureuse qu'il semblait, c'est ça ?
Non, pas tout à fait. C'était dans la présentation, oui, où il y avait un petit problème sur la logique du « où » et du « et ». Mais bon, ça, c'est, je pense qu'il faut laisser les lecteurs aller regarder le texte et puis voir un petit peu la démarche et tout le raisonnement qui est fait, justement. Je pense que ça peut être bien de...
D'accord. Mais au fond, est-ce que tout ça, ça ne dit pas que dans la vie de tous les jours, quand on est dans la cité, justement, on sort, on doit prendre des décisions au quotidien? Est-ce que ça ne montre pas qu'on n'agit pas de manière rationnelle ? Finalement, quand on réfléchit à ce qu'on doit faire, on ne réfléchit jamais plus de 2 ou 3 secondes. Nos décisions sont assez impulsives. Et par conséquent, quelle place peut avoir la philosophie dans nos vies de tous les jours si nous sommes guidés par autre chose que notre raison ? Est-ce que vous voulez réagir à cette question ? Dites ce que vous en pensez.
Alors déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce qu'en général... on réfléchit quand même plus de 2 secondes pour certaines décisions. Ça dépend un petit peu de quel est le choix qu'on doit faire et la décision qu'on doit prendre, quoi. Mais bon, après, voilà, ça dépend évidemment des implications qui peuvent être, qu'on imagine, des choix que l'on fait. Donc bon, voilà, ça dépend beaucoup du contexte.
D'accord. Quoi. Mais si on parle des hommes politiques, est-ce qu'on peut dire que les hommes politiques que nous avons ou que d'autres peuples ont, est-ce que eux, ils sont guidés par un choix raisonné, avec une longue réflexion qu'ils mènent pour les actions qui engagent la vie de la cité? Ou est-ce qu'au contraire, on peut dire qu'ils sont poussés par une sorte d'appât du gain?
Oui,
mais appât du gain, pas seulement gain matériel au sens argent, mais gain de popularité, gain d'audience, gain de pouvoir dans tous les sens qu'on peut prêter.
Alors,
à ce...
effectivement, si on suit justement les textes de Platon, on dirait qu'en théorie, il faudrait qu'ils soient guidés par le raisonnement, par la raison et la recherche de ce qui est la vérité pour finalement guider les actions, puisque c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein, c'est ce que l'on veut, c'est le bien général. Et donc pour ça, pour arriver à obtenir ça, le problème c'est qu'il faut savoir comment y arriver, comment l'obtenir, et donc il faut connaître la vérité, etc. Donc
connaître le bien.
Et Sylvain, tu voulais justement attirer notre attention sur la fin de la partie où Paulos dialogue avec Socrate.
Alors ce qui est intéressant du coup là dans cette on va dire cette dernière partie, enfin cette fin de deuxième partie plutôt, c'est la conclusion à laquelle Socrate arrive, hein, concernant la rhétorique. Donc je vous lis le petit passage.
Et qui s'appuie peut-être, il faut le rappeler puisque je ne l'ai pas rappelé, sur le fait que Socrate a montré qu'il était préférable de subir l'injustice plutôt que de la commettre. Et si on avait commis une injustice, il était préférable d'être puni que d'échapper au châtiment.
Tout à fait, oui. Alors je lis. Par conséquent, s'il s'agit de nous défendre nous-mêmes en cas d'injustice, ou de défendre nos parents, nos amis, nos enfants, notre patrie lorsqu'elle est coupable... La rhétorique, Paulos, ne peut nous être d'aucun usage. À moins d'admettre au contraire que nous devions nous en servir pour nous accuser d'abord nous-mêmes, ensuite pour accuser tous ceux de nos parents et de nos amis qui se rendraient coupables, sans rien cacher, en mettant plutôt la faute en pleine lumière, de telle sorte que le coupable se guérisse par l'expiation. Donc ça, c'est la première partie. Hein. Alors, il y a d'autres petits éléments qui sont donnés ensuite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la dernière réplique de Socrate, toujours adressée à Polos. Hein. « Voilà, Polos, les seules fins auxquelles la rhétorique me paraissent pouvoir servir. Car pour l'homme qui ne songe pas à commettre l'injustice, je ne lui vois pas grand usage, à supposer même qu'elle n'en est aucune, ce que nos précédents discours nous amenaient à lui refuser. » Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, après tout ce raisonnement avec Polos, ils arrivent à la conclusion que la rhétorique ne sert pas à grand-chose.
Sauf à s'accuser soi-même.
Si ce n'est à s'accuser soi-même. Mais a-t-on réellement, d'ailleurs, il le dit là, a-t-on réellement besoin de la rhétorique pour ça ?
Oui. Voilà. Donc en fait, c'est le renversement, quoi. C'est-à-dire que là, quand Nicolas disait « il y a un aspect terrifiant » de la philosophie, je crois que c'est très juste. C'est-à-dire, si on suit réellement les chemins philosophiques, il y a quelque chose souvent de terrifiant. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit « Quand un grand penseur vient au monde, nulle chose n'est à l'abri. » Alors, je cite de mémoire, hein, c'est peut-être pas exactement ça, mais avec Platon, on voit qu'il y a quelque chose de radical, effectivement, qui naît. Alors, on n'avait pas eu le temps, lors de la dernière émission, de lire l'extrait où, en dépit, ou peut-être pour cet aspect radical de la philosophie, Socrate dit « Eh bien, ma bien-aimée, c'est la philosophie ». Alors Anne, tu souhaitais lire ce passage ?
Oui, alors déjà peut-être il faut expliquer que Socrate reproche à Callicles de changer d'avis tout le temps, au gré de ce que disent ses amours. Et donc lui, il lui dit que lui aussi il a deux amours, déjà Alcibiade, qui est le fils de Clinias, et la philosophie. Donc voilà ce qu'il continue à dire à Callicles. Mais comprends bien que c'est pareil pour moi, et qu'il te faut m'entendre répéter ce que disent mes amours. Ne sois donc pas étonné de ce que je dis, ou sinon, fais que la philosophie, ma bien-aimée, soit elle aussi empêchée de parler. Car tout ce que tu m'entends dire, mon cher ami, c'est toujours elle qui me le fait dire, et elle est beaucoup moins inconstante que mon autre amour. Le fils de Clinias, lui, dit tantôt une chose, tantôt une autre. Mais la philosophie dit toujours la même chose. Et c'est justement ces phrases qui maintenant t'étonnent. C'est la philosophie qui les fait prononcer. Tu étais bien là en personne quand elle a parlé. C'est donc la philosophie, je le répète, que tu vas réfuter. Tu vas montrer contre elle que commettre l'injustice et ne pas être puni quand on a mal agi ne sont pas les pires des maux.
Merci. Texte très bien lu, avec émotion. Finalement, le paradoxe, c'est que, en dépit de cette éloquence, même si Socrate ne voudra pas lire, mais en tout cas c'est très bien apporté, son interlocuteur ne va pas entendre. Ou les trois interlocuteurs du Gorgias n'entendent pas ces arguments. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant et peut-être que on pourrait aussi voir que la pensée de Platon, elle n'est pas seulement dans Socrate, mais aussi dans ce que vont dire les interlocuteurs de Socrate.
Bah, ils ont un rôle intéressant, dans le sens où, pour éprouver cette sentence paradoxale, a priori, donc il vaut mieux être puni quand on a mal agi que d'échapper au jugement, et qu'il vaut mieux subir l'injustice que de la commettre, donner du poids donc à cette phrase étonnante, Platon va permettre aux différents interlocuteurs de Socrate de remettre en cause, de tester en quelque sorte chacun des points de la démonstration. Et donc Polos va essayer de le faire en disant que si Gorgias avait été réfuté, c'est parce qu'il s'était embarrassé de considérations morales, et que lui, Polos, ne s'en embarrasse pas en disant que peu importe qu'on fasse mal ou non, ce qui compte, c'est d'être puissant et considéré dans l'idée qu'il s'en fait, qui n'est évidemment pas l'idée de Socrate. Et Calliclès, lui, va à nouveau remettre en cause un certain nombre de choses qui avaient été établies entre Polos et Socrate. Et Socrate va reprendre les objections une à une et se plaindre évidemment que Calliclès remette en cause, y compris des choses qui avaient été convenues entre lui et Socrate. Parce qu'il a le droit de remettre en cause des choses qui ont été établies entre Polos et Socrate, parce qu'il n'était pas partie prenante du dialogue. Par contre, des choses qui ont été établies entre Calliclès et Socrate, là, c'est plus malvenu de remettre en cause des choses qui ont été établies précédemment.
Donc, est-ce que ça signifie que chaque fois qu'on voudra fonder une cité juste, il faudra d'abord qu'on s'entende sur les règles du dialogue, avant toute chose?
Ça me semble évident, oui.
Oui. Ça semble évident, mais précisément, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que aujourd'hui on réfléchit encore aux règles du dialogue? Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne, ou est-ce que on a encore peut-être moins de possibilités qu'avant de s'entendre, d'une part par notre grand nombre, et d'autre part par les nouvelles techniques, nouvelles technologies, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont tendance peut-être à isoler les personnes en petits groupes. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait. Et ce qui est dramatique, c'est que cette dispersion en petites communautés, avec chacune son langage, avec chacune un sens donné qui est donné à chaque mot, eh bien, quand on discute avec quelqu'un qui n'appartient pas à la même communauté, on se retrouve avec un problème de langage. Hein, c'est ce que déplorent régulièrement les académiciens en déplorant la perte d'unité du français, qui n'est plus une langue commune à tout un peuple, mais qui est en quelque sorte dégénérée ou diversifiée en différentes communautés qui deviennent dès lors incapables de dialoguer.
Je voudrais noter quelque chose dans ce que tu dis, Nicolas, c'est que tu as souligné la différence qu'il y a à s'entendre, à avoir le même langage et ainsi de suite. Et souvent, ce qu'on entend, c'est le discours sur les valeurs. On pourrait dire qu'aujourd'hui, notre discours politique, c'est que les gens ne sont pas capables de s'entendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Or, ça, c'est tout à fait anti-platonicien ou contre-platonicien, puisque justement, si nous avons, en tant qu'être humain, accès au juste, si nous avons accès au beau, à ce qui peut nous rassembler, ce n'est pas une question de valeur. C'est effectivement une question de chemin, de langage, et d'avoir cette méthode qui nous mène à contempler le beau, et donc à faire une cité ensemble qui soit juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche-là? Anne, est-ce que tu souhaites dire ce que tu en penses?
Oui,
est-ce que ça te paraît correct, ou est-ce que ça te paraît de l'entourloupe, encore une fois, socratique, pour dire les choses?
Non, mais c'est effectivement, on en revient toujours à ce qu'a dit Socrate au début sur le soin de l'âme et sur l'importance de la cité. Et il est encore terriblement présent maintenant. Hein. Et du reste, à propos justement de, parce qu'il y a un aspect dont on n'a pas encore parlé, c'est l'aspect de l'éducation, hein, qui est quand même un petit peu présent dans le Gorgias, parce qu'il dit, quand il reproche au rhéteur de ne pas faire connaître le juste et l'injuste, donc il incite aussi sur l'importance de l'éducation. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très, très important. Et on assiste parfois, malheureusement maintenant, avec les nouvelles technologies, aussi à des choses qui vont complètement à l'encontre de ça. Par exemple, les nouvelles technologies ont été utilisées dans les élections américaines pour faire de la désinformation. Donc là, je pense que Socrate se retournerait peut-être un petit peu dans sa tombe s'il assistait à ce genre de choses.
Et précisément, c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a eu, mais il faudrait pondérer ce que je vais dire, il y a un échec justement du platonisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes ces idées-là ne résistent pas face à la puissance de Facebook, face à la puissance, mais depuis avant, les masses médias ont toujours été des moyens de faire de la propagande et ainsi de suite. Donc la question, elle est plus vive, plus vivace que jamais, c'est comment faire pour faire une cité juste? Est-ce que vous pensez que Platon peut nous y aider encore de nos jours, ou est-ce qu'il est dépassé?
Alors dépassé, non, sans doute que non. Enfin, ça paraîtrait vraiment étonnant. Enfin, par rapport au fait que ce qu'il cherche, c'est vraiment des bases et des comportements qui reposent sur des choses vraiment on va dire absolu, dans le sens où se rapprocher de la vérité, etc. Donc c'est quelque chose qui, au contraire, devrait peut-être être plus pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu oublié ces choses-là. Il y a aussi un problème de taille. Enfin, à l'époque de Platon, c'est clair que les cités, c'était des... Bon, il y avait des centaines, des milliers de gens dans les cités, mais ça restait très, très petit comme communauté. C'était des communautés très, très, enfin, on va dire, à taille humaine, entre guillemets. Taille humaine, d'ailleurs, c'est marrant, cette expression. Mais au final, est-ce que même le projet de la République, de Platon, est-ce que ce projet, il passe justement à des échelles plus importantes? Est-ce que ces choses et l'organisation qu'il propose peut tenir pour arriver à, finalement, ben, d'une certaine façon, à gérer au mieux une société de 7 milliards d'individus, eh ben c'est compliqué. Et ça, je suis pas persuadé que ce soit forcément facile. Même si il pose des bases intéressantes, mais malheureusement, je crains qu'on les oublie trop, quoi.
Alors, il faudrait pas sous-estimer la puissance de la philosophie. Qui est d'ailleurs toute puissance au sens où le conçoit Socrate, puisqu'elle mène au bien.
Ah oui, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'autre voie que la philosophie chez Socrate. C'est-à-dire, le reste des pertes de temps, c'est une agitation vaine où c'est toujours le plus fort qui a le dernier mot.
Mais je vais reprendre une citation de l'Apologie de Socrate, où il dit ceci: « Ceux qui m'entendent s'imaginent toujours que je sais les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. » Alors ça, c'est intéressant, parce qu'après, il ajoute en fait... il ne sait rien lui-même. Alors, évidemment, ça, c'est dit avec un manque de sens commercial évident.
Voilà.
Mais si on retourne cette phrase, on a d'un côté la rhétorique qui prétend faire accroire à ceux qui ignorent des choses qui sont justes ou fausses, mais de l'autre côté, donc, qui peuvent convaincre de n'importe quoi n'importe qui, du moins que ce n'importe qui soit ignorant des choses dont on parle, mais de l'autre côté... la philosophie, la méthode de Socrate, c'est ce qui permet, ne sachant rien, de démasquer des imposteurs. Et donc, en pratiquant la philosophie, eh bien, on peut justement montrer l'impuissance et la vacuité des rhéteurs et les mettre en défaut.
Donc, ce que tu dis, Nicolas, c'est qu'en fait, la technique de la dialectique, c'est pas d'arriver avec plein de connaissances, mais c'est au contraire savoir bien discuter pour montrer que l'autre ne sait pas et diminuer ses prétentions.
C'est ça. Ben voilà. Et c'est peut-être en ce sens, et en éduquant les citoyens à cet exercice, c'est en ce sens qu'on peut dire que Socrate est l'un des seuls à faire de la politique.
D'accord. Alors donc toi, tu prônes une certaine anarchie joyeuse ou...
Non. Non. Je ne pense pas que Socrate était anarchiste, Platon encore moins. Non, par contre, c'est pratiquer un certain esprit critique qui permet de mettre en défaut ceux qui racontent tout et n'importe quoi pour les faire taire d'une certaine façon, pour leur clouer le bec.
Nous allons faire une petite pause musicale de quelques secondes et nous nous retrouvons pour éclaircir ce point auquel Sylvain voulait réagir.
RCF Lorraine-Nancy, votre radio locale.
Donc vous êtes bien avec Les Neveux de René, Chemin de pensée, émission consacrée à l'étude des textes classiques de la philosophie. Nous étions avec Jean-Sébastien Bach, l'air sur la corde de sol, choix fait par Anne Bonneau. Alors, nous avions cette question de comment construire une cité juste, comment construire quelque chose qui, en dépit de la taille gigantesque maintenant de nos sociétés, puisse être là. Une référence qu'on peut conseiller, une lecture qu'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est celle d'un livre d'Olivier Rey qui s'appelle « Une question de taille » et peut-être que nous reviendrons sur une discussion autour de ce livre, voire que nous aurons peut-être la présence ou une interview d'Olivier Rey. Alors Anne, tu souhaitais nous lire. Oui, pardon, tu souhaitais
oui,
d'abord.
Voilà, Sylvain. Je voulais réagir juste à ce qui avait été dit juste avant, hein, effectivement, par rapport à l'intérêt de la, bah justement, de ce que propose Platon dans son projet de République. Au final, si on voit bien le sens qu'auraient aujourd'hui les assemblées dans les pays, hein, dans les États, on a des assemblées qui justement sont censées discuter, échanger entre eux. En fait, c'est une dialectique qui doit s'y dérouler en fait dans ces assemblées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les intervenants sont pas toujours libres, mais eux-mêmes, hein, peut-être inconsciemment, je sais pas, mais ils sont pas toujours libres d'être objectifs dans leur position. Pour tout un tas de raisons, ça peut être des raisons de parti politique, de toutes ces choses-là. Et donc, au final, le problème qui se pose, c'est qu'il y a un biais qui est à l'intérieur même de ces endroits où est censée se dérouler la dialectique, en fait.
Mais ce que tu appelles un biais, c'est un manque de courage, pour être plus clair.
Oui, un peu, peut-être un peu ça, mais...
Parce que, encore une fois, si on revient à la démarche platonicienne, c'est de deux choses l'une. Ou l'homme politique qui siège, ou il a fait son possible pour connaître la vérité et il va prendre la meilleure décision qui lui semble, et on ne peut rien lui reprocher. Ou il n'a pas fait ça, et il a cédé à d'autres intérêts, à d'autres pentes. Et à ce moment, c'est un manque de courage, c'est par lâcheté et c'est par asservissement à ses passions.
Alors, moi, je ne suis pas dans le circuit des députés de l'Assemblée, effectivement, il peut y avoir...
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Il peut y avoir parfois des négociations, mais quoi qu'il en soit, effectivement...
Je ne suis pas d'accord avec toi, Sylvain, pour une petite chose. C'est que tu dis « je ne suis pas dans le circuit », mais chacun d'entre nous a des décisions politiques à prendre au quotidien. On fait tous la politique du matin au soir. On est tous dans des assemblées, quelles qu'elles soient, ça peut être à l'université.
Alors, effectivement, mais là, j'étais dans le contexte précis de l'Assemblée d'une nation.
Oui.
Mais cette Assemblée, elle est élue, et elle est élue suite à des échanges d'opinions au niveau de toute la population. C'est-à-dire qu'on participe au débat d'opinion de manière ou d'une autre, en laissant dire des choses.
Tous les jours.
Ne serait-ce qu'en laissant dire des choses.
Exactement. Et moi, je vois, par exemple, j'ai vu dans le cas de l'Algérie, aujourd'hui, c'est Abdelaziz Bouteflika qui est au pouvoir. La constitution algérienne, au début, devait limiter le nombre de mandats à 2 mandats. Il en est à son quatrième et dans un état déplorable et ainsi de suite. Et donc, il faut s'interroger sur la façon dont effectivement des assemblées peuvent se laisser corrompre, modifier les choses comme ça. Et si aujourd'hui on veut reconstruire une réelle politique, je crois qu'on ne peut pas faire autrement qu'en passer par un dialogue sérieux avec Platon et avec d'autres auteurs.
C'est voilà. Complètement, clairement, oui, tout à fait vrai.
Alors Anne, peut-être tu souhaitais nous lire quelque chose qui est d'un autre ressort, mais qui est quand même lié à cette dimension politique.
Oui, c'est un passage où Socrate répond à Calliclès et où il cite un mythe, en fait. En fait, je ne serais pas étonné si Euripide avait dit la vérité. Je cite le vers. Qui sait si vivre n'est pas mourir, et si mourir n'est pas vivre? Tu sais, en réalité, nous sommes morts. Je l'ai déjà entendu dire par des hommes qui s'y connaissent. Ils soutiennent qu'à présent nous sommes morts, que notre corps est notre tombeau, et qu'il existe un lieu dans l'âme, là où sont nos passions, un lieu ainsi fait qu'il se laisse influencer et balloter d'un côté et de l'autre. Eh bien, ce lieu de l'âme, un homme subtil, sicilien ou italien, je crois, qui exprime la chose sous la forme d'un mythe, en a modifié le nom. Étant donné que ce lieu de l'âme dépend de ce qui peut sembler vrai et persuadé, il l'a appelé passoire. Par ailleurs, des êtres irréfléchis, il affirme qu'ils n'ont pas été initiés. En effet, chez les hommes qui ne réfléchissent pas, il dit que ce lieu de l'âme, siège des passions, est comme une passoire percée, parce qu'il ne peut rien contrôler, ni rien retenir. Il exprime ainsi l'impossibilité que ce lieu soit à jamais rempli.
Alors, dans la traduction que tu as lue, tu as passoire, alors que moi j'ai tonneau, tonneau percé qui fait penser au tonneau des Danaïdes. Ouais. Mais bon, l'idée est là. Donc, on a reproché à Platon une forme de nihilisme, à savoir dans cette identification du corps soma-sema, donc il y a un jeu de mots, le corps ici est quand même dénigré, puisqu'il dit le corps est un...
qui veut dire corps, et sema qui veut dire prison.
Merci Nicolas, voilà. Tombeau, hein, je crois.
C'est, oui, le corps est notre tombeau.
Voilà, le corps est notre tombeau. Donc soma, donc, quand on dit un effet somatique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, moi il me semble, si je dois donner mon interprétation personnelle, que c'est très lié à cette histoire... de qu'est-ce que c'est qu'un homme politique intègre. C'est finalement quelqu'un qui a renoncé au plaisir de la vie d'une certaine façon. Il faut qu'il ait renoncé à toutes ces choses qui vont l'attirer et qui vont le corrompre pour pouvoir prendre les décisions qui sont les meilleures pour son peuple. Vous disiez tout à l'heure, lors de notre discussion informelle, que vous mettriez des gens au pouvoir, qui ne veulent pas le pouvoir. Est-ce qu'on peut accepter cette idée-là?
enfin qui ne souhaitent pas a priori, mais qui sont prêts à s'y coller par devoir, parce que ce n'est quand même que d'assumer des responsabilités politiques importantes.
D'accord. Bon, bah, je remercie chacun d'entre vous pour ce nouveau parcours au sein du Gorgias. Nous nous verrons la semaine prochaine pour découvrir d'autres horizons philosophiques. Peut-être nous changerons complètement d'époque. Merci à nos auditrices, à nos éditeurs. À la semaine prochaine.